Chapitre 90. L'hiver refusait de céder sa place au printemps cette année-là. Le temps changeait du tout au tout chaque jour, et un mardi glacial suivit un lundi plus tempéré sous l'effet du front nuageux qui empêchait le soleil de percer. Jane, méconnaissable avec sa longue perruque châtain, ses yeux verts et ses fausses lunettes, arriva à Haut-Fourneau-le-Lac peu après 11 heures. Elle découvrit un village ravissant, aux cyprès parfaitement taillés, dominant un bel ensemble de façades victoriennes. Parvenue à l'extrémité de la rue principale, elle bifurqua en direction du grand hôtel et longea les eaux grises du lac dans la lumière terne de cette fin de matinée. Deux petits bateaux équipés de moteurs électriques troublaient l'onde en laissant dans leur sillage des vaguelettes qui s'apaisaient aussitôt. Elle passa devant l'hôtel et poursuivit sa route jusqu'à l'entrée imposante du domaine appartenant à la société Apiculus, qu'elle observa sans même ralentir. Elle s'arrêta un kilomètre plus loin sur un parking, d'où l'on disposait d'une vue panoramique sur le paysage, désert en cette saison. Elle descendit du Ford et verrouilla les portes car il contenait ses valises, son sac et son cabas. Munie de jumelles, elle traversa la route et pénétra dans une pinède au sol couvert de neige parsemée de fougères. La forêt s'étalait sur le flanc d'une colline dont elle longea la crête jusqu'à un pré en pente dans lequel elle se glissa, de sorte que personne ne puisse la voir depuis Lakeview Road. Elle s'allongea dans l'herbe, face à la grande demeure, en dérangeant une nuée d'alrodes qui s'empressèrent de voler vers un secteur plus tranquille. Elle porta les jumelles à ses yeux et concentra son attention sur l'immense propriété en contrebas. Jane s'était imaginé qu'un milliardaire comme DJ Michael aurait fait installer un poste de garde à l'entrée d'un domaine aussi important, en plus de la grille et du mur d'enceinte. Mais ce n'était pas le cas. Le mur n'était pas davantage surmonté de pics acérés. L'allée aurait également pu être plus longue. Pas pour des raisons esthétiques, mais parce qu'une allée sinueuse aurait permis aux agents de sécurité d'arrêter plus facilement un intrus qui ferait sauter la grille à l'explosif ou pénétrerait de force dans la propriété avec un camion bélier. Peut-être DJ ne souhaitait-il pas attirer l'attention sur lui. Il avait fort bien pu compenser ses carences en faisant installer un système de surveillance électronique dernier cri, des portes blindées, des vitres à l'épreuve des balles et plusieurs refuges de secours. Un inconnu balayait les feuilles mortes de l'allée. L'homme ne portait pas la tenue traditionnelle d'un majordome ou d'un jardinier. Il était vêtu de blanc de la tête aux pieds, comme un infirmier. Jane s'intéressa aux fenêtres l'une après l'autre et découvrit à l'étage un spectacle auquel elle ne s'attendait pas. Le visage d'un petit garçon de 9 ou 10 ans. DJ Michael ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Pas plus qu'il n'avait de neveux et de nièces, puisqu'il était fils unique. Comment expliquer la présence de ce blondinet immobile au teint pâle et à la mine grave? Elle se fit la réflexion qu'il ressemblait davantage à un revenant qu'à un enfant de chair et d'os. Cette image lui rappela Miles, le petit garçon du Tour d'écrou, la nouvelle de Henry James. Elle frissonna soudain en voyant surgir dans sa tête le visage de Travis, plus jeune, mais tout aussi isolé. Son poste d'observation ne lui permettait pas de distinguer la partie du parc située immédiatement derrière la maison, mais le terrain descendait ensuite en pente douce vers le lac. Plusieurs petits chemins dallés traversaient la propriété et certains arbres surplombaient le mur d'enceinte, ce qu'aucun spécialiste de la sécurité digne de ce nom n'aurait toléré. De l'eau s'écoulait sans bruit de fontaines en forme de coquille Saint-Jacques, et le petit belvédère saupoudré de neige ressemblait de loin à ces décors en sucre que l'on voit sur certaines pièces montées. Deux fillettes apparurent sous un saule, et Jane braqua ses jumelles sur elles. Elles étaient trop éloignées pour qu'elles puissent estimer leur âge avec précision, mais elles étaient plus jeunes que le garçonnet blond. Elles avançaient main dans la main de façon presque craintive. Sans doute l'imagination de Jane lui jouait-elle des tours, sous l'effet du péril qui menaçait Travis. À l'intérieur de la maison, le blondinet n'avait pas bougé de sa fenêtre. Quant à l'homme qui balayait les feuilles mortes, il avait disparu. Les deux fillettes s'arrêtèrent au niveau d'un banc en fer forgé. Elles s'y installèrent, serrées l'une contre l'autre, comme deux sœurs en manque d'affection. Une femme déboucha du petit sentier qu'elles avaient emprunté quelques instants plus tôt. À l'image du jardinier, elle était habillée tout en blanc. Elle se figea à quelque distance des petites filles et les contempla longuement. Un vol de corbeau passa au-dessus de sa tête en croissant et se posa sur le faîte de la maison. Jane surveillait à nouveau le garçonnet immobile lorsqu'un ado de 14 ou 15 ans le rejoignit. Il passa un bras autour de ses épaules et ils restèrent immobiles une bonne minute jusqu'à ce que l'aîné entraîne son cadet dans l'ombre de la pièce. Jane reposa ses jumelles et se redressa au milieu des hautes herbes. Si la propriété de Lakeview Road avait servi autrefois de retraite secrète à David James Michael, ce n'était plus le cas. Randall Larkin l'avait-il dupé? Il ne lui avait pourtant pas menti en lui affirmant que la propriété appartenait à DJ. Elle en avait eu la preuve en procédant à des vérifications sur le net. L'absence d'agents de sécurité rendait peu probable la présence du milliardaire en ce lieu, et celle des enfants indiquait que la maison avait une autre fonction. Larkin, sûr qu'elle allait le tuer, avait agi en connaissance de cause pour lui nuire. Jamais il ne l'aurait envoyée aussi loin dans le seul but de la mettre sur une fausse piste. Cette maison renfermait de toute évidence un piège, et le mieux était de s'en éloigner. L'unique objectif de Jane était de capturer DJ Michael et de lui arracher une confession. Comme il n'était pas là, elle n'avait aucune raison de rester à Haut-Fourneau-le-Lac. Et pourtant, Berthold Schenek, le père des mécanismes de contrôle, avait lui aussi des liens avec ce lieu. En apprendre davantage sur cette maison pouvait fort bien lui fournir des informations qui l'aideraient à piéger le milliardaire. Elle se releva, épousseta son jean et regagna le Ford en réfléchissant aux moyens d'en apprendre davantage sur ce lieu, accompagnée par le croassement des corbeaux sur le toit de la vieille demeure, tels des prophètes de mauvais augure.